Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Damien.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui donc, pour parler de Design Ops. Et du coup, l'aventure que tu vis au sein de PayFit sur ces sujets-là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord de te présenter.
Ok. Donc je m'appelle Damien Boyer. Je suis aujourd'hui Design Ops Manager chez PayFit. J'ai commencé ma carrière en tant que designer. J'ai fait des études de sciences humaines donc qui ne m'orientaient pas obligatoirement vers un rôle de designer, mais j'avais un intérêt fort quand même pour le design. Donc j'ai eu des premières expériences, je viens de La Rochelle, donc des premières expériences dans des toutes petites agences à La Rochelle avant de rejoindre Paris. J'ai travaillé un temps chez Pixmania, feu Pixmania même, parce que ça n'existe plus il me semble, pendant 3 années, en temps plus sur du project management. Et où j'ai commencé à m'orienter sur de l'UX design, c'était il y a 15 ans aujourd'hui, donc c'était vraiment l'émergence de l'UX design qui m'a vraiment animé, en tout cas, oui, j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était l'UX design, donc j'ai fait plusieurs expériences ensuite dans ce rôle-là, dans des agences tech, donc chez Clever Edge notamment, puis chez Akiani à Bordeaux, qui étaient des agences spécialisées en UX design. J'ai fait une autre agence après, avant de rejoindre Betagouv, donc l'incubateur de l'État, pour une start-up d'État qui était sur une spécialisée en tout cas sur l'éducation nationale et sur l'apprentissage. Notre but était de faire en sorte de garantir un apprentissage pour les jeunes qui cherchaient un apprentissage et d'aider les entreprises à trouver le bon apprenti. Donc on travaille beaucoup sur des outils qui, de recherche notamment d'apprentissage, mais des outils aussi qui étaient dédiés à des institutions, aux lycées, aux écoles pour les aider justement autour de l'apprentissage. Donc je fais 2 ans à Betagouv avant de rejoindre en 2022, PayFit, j'avais rencontré la VP Design de l'époque aux UX Days, dont je faisais partie de l'organisation. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour Léa à l'époque et j'avais envie de travailler avec elle. Donc je l'ai contactée. Elle m'a amené vers un poste de Design Ops, du coup, en rencontrant Zaliata, qui était à ce poste-là en 2022. Et voilà, et après j'ai rejoint donc PayFit en mai 2022, ça fait 2 ans aujourd'hui, et j'occupe aujourd'hui le poste de Design Ops Manager.
Top, très clair, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas PayFit, globalement, si tu devais résumer ce que vous faites, et ensuite on va rentrer dans le concret de qu'est-ce que c'est que le Design Ops.
PayFit, du coup, c'est une société qui a une application SaaS à destination des PME, de gestion de paye automatisée et d'outils RH. Donc outils RH, j'entends... gestion donc de la paye, la gestion des congés, on peut gérer aussi les entretiens individuels via PayFit. Donc c'est vraiment un outil qui permet de gagner du temps pour les PME pour ces gestions de la paye principalement, quoi.
En termes à peu près de taille de personnes et ensuite de nombre de personnes aussi sur la partie design, vous êtes à peu près combien ?
Aujourd'hui, chez PayFit, tout confondu, on est un peu moins de 900, je pense. On est répartis sur 3 pays, donc sur la France aujourd'hui, avec des locaux à Paris. On a des locaux à Londres, et on opère donc pour la Grande-Bretagne, et en Espagne, avec des locaux à Barcelone. Aujourd'hui, l'équipe design, c'est un peu plus de 30 personnes. On a une équipe qui est dédiée au produit, donc product design, un peu plus d'une dizaine de personnes. On a une équipe qui est dédiée à la marque, donc brand design. On a une partie qui est dédiée au design system PayFit, donc qui est en train d'avoir une grosse évolution. On a une équipe dédiée à la user research et au service design et au content design. Toutes ces personnes-là, on les accompagne donc avec le Design Ops aujourd'hui. DesignOps, excuse-moi.
Ouais, non, mais du coup, d'où l'intérêt aussi de comprendre. On voit donc un peu les segmentations de l'équipe design, et du coup, je te laisse poursuivre sur qu'est-ce que ça veut dire du coup que DesignOps pour vous et pourquoi c'est nécessaire en fait.
Déjà aujourd'hui, DesignOps, en tout cas chez PFIT, c'est des personnes qui occupent ce poste-là. C'est pas obligatoirement le cas dans toutes les sociétés. La chance, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai rejoint PFIT, c'est que je m'étais rendu compte qu'en tout cas, c'était une société qui avait une maturité design qui était importante, qui savait l'importance du design au sein du produit et qui du coup mettait les moyens pour faire en sorte que le design s'épanouisse et que ça soit un apport fort dans les choix et dans la priorisation au sein du produit. Ce qui fait que, déjà qu'il y a une équipe dédiée au design ops, ce qui est rarement le cas, il y a beaucoup de sociétés, de compagnies, même grosseurs, mais même des plus petites sociétés, dont le rôle que l'on a aujourd'hui en tant que design ops est fait soit par des designers qui vont le faire en part-time et qui vont opérer sur... sur ce que j'expliquerai après sur les différentes missions qu'on peut avoir, où c'est le rôle du Head of Design, du VP Design, de s'occuper de l'onboarding, de l'offboarding, des carry pass, de tous ces sujets qu'on peut adresser aujourd'hui. Donc la chance qu'on a chez PFIT aujourd'hui, c'est qu'on est, aujourd'hui on est deux design ops à opérer sur l'ensemble des missions qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Donc design ops chez PFIT, on a quatre grands piliers. Le premier pilier va être autour du learning, de la progression, de faire en sorte que les designers puissent évoluer dans leur métier, progresser, être toujours en constante apprentissage. Est-ce que tu veux que je détaille
Vas-y. Ouais.
Donc l'apprentissage, en fait, ou le learning, on va faire en sorte de... je parlais de career path à l'instant. On va essayer de définir... Qu'est-ce que c'est qu'un designer chez PFIT, un product designer, brand designer, etc., ou les expertises qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on attend d'eux en fonction des différents niveaux. Qu'est-ce qu'on attend d'un junior, qu'est-ce qu'on attend d'un confirm ou d'un senior, voire des profils plus staff ou principal qui vont avoir un impact qui sera plus important. Mais il faut qu'on puisse, pour les aider à progresser, savoir quelles compétences on attend d'eux et quelles... quelle responsabilité on peut avoir et attente vis-à-vis des autres designers. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait, qu'on a construit, qu'on a co-construit avec les designers et avec le leadership design, et qu'on a un outillage, notamment pour les product designers et brand designers, qui va être un moyen de communiquer entre les managers et leurs managers pour les aider à évoluer. Donc on identifie quelles sont leurs lacunes, et comment on fait en sorte de les aider pour ça, quoi.
Donc là-dessus, sur ce premier pendant carrière PAF, c'est vraiment pour, si je rephrase tel que je le comprends, c'est à la fois donc pour aider les différents profils de designers à progresser dans leur spécialité, et aussi pour leur donner une visibilité sur l'évolution vers laquelle ils peuvent tendre demain, et pas juste rester par exemple purement contributeur individuel ou, voilà, pour leur donner aussi de la visibilité sur le après, une fois qu'ils auront masterisé ce pourquoi ils ont été recrutés, est-ce qu'il y a une étape d'après, et permettre aussi de, j'imagine, garder les profils et pas éviter de les perdre une fois qui sont devenus experts sur le sujet sur lequel ils ont été recrutés en amont.
C'est exactement ça. On a un enjeu assez fort de rétention, de faire en sorte, une fois qu'on le sait, dans le design, même de manière générale, dans le product, c'est compliqué d'avoir, de recruter. Ça prend du temps, on a des entretiens à faire, on a épluché de nombreux CV, etc. Ça coûte de l'argent. Et quand on arrive à trouver les bons designers dans notre équipe, le but, c'est de les garder le plus longtemps possible. Et l'évolution est importante. On a un certain nombre d'outils pour évaluer, pour avoir un certain nombre d'objectifs, mais le but, c'est de les servir également et de faire en sorte, effectivement, comme tu le dis, qu'ils puissent se projeter. Donc, on a deux passes principaux. On peut soit évoluer en tant qu'IC, mais vers de l'expertise réellement.
Donc, individual contributor.
Un individual contributor, yes. Qui peut avoir un même niveau qu'un manager. On aura des attentes qui seront bien plus importantes, mais avec un impact non pas au niveau d'une squad ou d'une tribe, donc d'une équipe produit au sein de PFIT, mais un impact qui peut être au niveau département ou même au niveau compagnie. Et là, c'est des profils très seniors, mais il faut qu'on puisse les accompagner vers cela s'ils veulent s'expertiser. Et après, on a un autre pass qui est sur du management. Une fois qu'on après le après le après avoir été senior product designer, on peut s'orienter vers du design management, voire directeur, et avoir manager des personnes et avoir un impact différent.
Très très clair. Donc ça c'est le premier pendant, donc la partie carrière path. Ensuite vous travaillez sur quoi
Alors ensuite on a une mission autour de l'expertise ou de tout ce qui est méthodo, process au sein du design. Le but étant de faire en sorte que les designers travaillent plus ou moins de la même manière, de standardiser et d'avoir une meilleure efficacité. Donc on va travailler notamment de faire en sorte que les designers aient accès aux bons outils. Donc ça c'est assez classique, mais de faire en sorte que ce ne soit pas les managers ou autres qui gèrent cet accès aux outils et que l'outil en lui-même soit utilisé de la bonne manière. Donc typiquement, notre outil principal, ça va être probablement Figma. Sur Figma, on fait en sorte que tout le monde ait les bons accès, les bons templates pour bien démarrer un projet, être formé aussi de la bonne manière, avoir les droits qui fonctionnent correctement, et ensuite d'opérer de la même manière au sein des équipes. Donc on gère ce qu'on appelle nous la gouvernance d'un outil, de faire en sorte que ça soit plus ou moins standardisé et que tout le monde délivre de la même manière au sein du produit. Donc ça c'est l'idéal, on n'est pas toujours dans cette situation à chaque fois, mais en tout cas on essaye de tendre vers ça, vers la standardisation. Ensuite on a en termes de méthodo, on travaille notamment sur faire en sorte de on a créé notamment récemment ce qu'on appelle un design definition of done, définir de quelle manière un bon projet design doit être fait. Donc on a c'est une sorte de checklist qui va orienter les designers vers de la méthodo, les bonnes personnes à contacter quand tu as besoin, la bonne manière de faire la documentation et d'avoir accès à cette base de données de manière plus simple. Donc les designers ont une meilleure connaissance aussi de ce qui est fait sur les autres périmètres grâce à ce design definition of done, mais aussi ils ont une, même s'ils sont seniors, tu as toujours besoin aussi d'avoir un accès à un rappel en tout cas de la bonne manière de délivrer un projet, quoi.
Ok, très très clair. Donc ça, enfin ça, tu le mets dans le même pendant que la gestion des outils aussi, enfin dans le paquet, on va dire process interne de fonctionnement de l'équipe design.
On a un troisième, ouais. Du coup, on travaille. Et c'est peut-être ce qui est le plus connu, en tout cas, sur la partie plus culture ou communauté. Je parlais de rétention tout à l'heure sur les designers. Ils attendent à progresser, mais ils attendent aussi à mieux collaborer et à vivre dans un environnement où c'est agréable d'être designer. Donc, au sein de PFIT, donc c'est le rôle aujourd'hui des design ops, mais c'est aussi le rôle qu'on essaye de partager avec les designers, de faire en sorte que ça soit aussi eux qui amènent cette culture. De la culture, ça veut dire, au sein de aujourd'hui de notre équipe, c'est mettre en place des rituels qui font que les designers vont mieux partager, vont aussi apprendre des autres, donc de faire en sorte d'avoir learn from each other. Ça va être typiquement, on a un rituel le vendredi matin qu'on appelle Kiss Cool Sessions, qui est un moyen en tout cas de partager entre nous. Donc on va définir régulièrement des thématiques. Ça peut être un designer qui a envie de partager quelque chose qu'il a appris sur un outil, mais ça peut être aussi d'inviter un designer externe. On a invité récemment une personne de BetaGouv qui nous a parlé et de son métier et de l'accessibilité, d'éco-design, etc. Donc ça nous ouvre les chakras, ça nous ouvre notre horizon, et c'est, je parlais tout à l'heure de learning, de manière de faire progresser les designers, c'est aussi une manière de le faire. Donc ça crée une culture, ça crée une envie au sein de PFIT, et c'est le type d'initiative qu'on peut faire. On peut faire des... On va être les moteurs aussi pour tout ce qui est team building. On a fait des off-site, notamment l'année dernière, on est parti 2 jours à un endroit, on avait animé un certain nombre de choses, des workshops très pro, mais aussi des manières de mieux se connaître, etc.
Très, très clair. Donc, premier pendant, gestion de carrière. Deuxième pendant, process interne, fonctionnement de l'équipe design, autant d'un point de vue outil que qu'est-ce que c'est que de faire du design chez PayFit, quels sont les attendus d'un designer. Troisième pendant, du coup, l'aspect très culturel de tout ça, comment on a le smile au sein de l'équipe design quand on travaille, et comment on insuffle aussi cette énergie et la logique de partage entre les différents pôles design. Et du coup, il y a un quatrième pendant.
C'est le monitoring. Yes. Du coup, le monitoring, ça va beaucoup avec la partie process, etc. Ouais. Le but, c'est de... et je parlais du design definition of dawn. Il y a un objectif derrière aussi de voir quel projet on sort, quelle est notre vélocité, de mesurer aussi l'impact que l'on a côté design, mettre en place de la data et pouvoir le suivre. Donc, on crée notamment des dashboards, on appelle ça... UX KPI, donc la manière dont on va s'assurer que ce qu'on délivre est pertinent. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on tend, où je pense qu'on n'est pas le plus mature, mais en tout cas vers lequel on va le plus possible, de faire en sorte de mieux suivre ce que l'on délivre, et autant de manière très micro sur toutes les expériences que l'on crée, mais également de manière générale sur le monitoring du bien-être de nos designers, sur des surveys qu'on peut faire très régulièrement pour voir ce qu'il y a besoin d'améliorer. Et ça, c'est principalement à destination des managers du leadership, en tout cas design.
Ok, très, très clair. Donc, ce qui... je pense, pour reposer aussi, enfin pour bien recontextualiser ceux qui pourraient dire, c'est top en fait d'avoir des personnes dédiées à faire ce genre de choses pour un pôle en plus dédié. C'est même pas sur toute la boîte, c'est sur la partie design, d'avoir des personnes qui sont dédiées à toutes ces activités. Le besoin derrière ça, il vient aussi du fait que on l'a pas mentionné pour ceux qui connaîtraient pas Payfit, mais vous êtes aussi une scale-up, donc enfin vous avez grossi très très vite. Juste pour donner des ordres de grandeur, entre le moment où t'es arrivé en mai 2022 et aujourd'hui en 2024 où on enregistre, le nombre de personnes est passé à peu près, donc là aujourd'hui on est à peu près 900.
Ça a réduit en fait.
Ok.
On a réduit parce que je suis arrivé moi dans une période où on était vraiment en hyper scale, okay, avec beaucoup beaucoup de monde qui arrivait. Je crois qu'on est monté mi 2022 à une quarantaine de personnes. On a eu une phase où on ne remplaçait pas systématiquement les personnes qui partaient parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait probablement grandi trop vite et que sur certains périmètres, il n'était pas nécessaire systématiquement d'avoir deux designers, ou en tout cas de mieux considérer en tout cas les efforts qu'on avait sur l'équipe design. Aujourd'hui, on est un peu plus de 30.
Yes.
On continue de recruter. On a 3 offres aujourd'hui de senior product designer. Et moi, je recrute un design ops dans mon équipe. Donc, c'est plus raisonné, je dirais, sur l'équipe. On est plus dans une phase d'hyperscale. On est plutôt dans une phase où on cherche la rentabilité aujourd'hui de manière assez classique dans l'univers des scale-up ou des start-up, en tout cas. Et du coup, on essaye d'avoir aussi des... non pas une meilleure exigence, mais ça passe aussi parce qu'on est en train de mettre en place en termes de monitoring, mais de faire en sorte d'être plus efficace, mieux délivré, de meilleure qualité aussi en termes de design, et donc d'éviter de s'éparpiller, d'avoir trop de monde aussi dans l'équipe. Ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne va pas recommencer à, si c'est pertinent, avoir de nouveau une phase avec un peu plus de monde dans l'équipe, quoi.
Yes, très clair là-dessus. Bah, après, ça reste quand même conséquent, 30, oui, 30 designers sur... par rapport à ces différents pans de ce que vous faites, qu'est-ce que tu notes comme ce qui a été peut-être le plus compliqué, challenging jusqu'à présent à mettre en œuvre, et après aussi les challenges de demain. Mais là, plus d'un point de vue, je regarde dans le rétroviseur sur ces un peu plus de 3 ans chez Payfit, la mise en place de ces différents pans, qu'est-ce qui a été pour toi un des plus challenging, et ce que t'en as retiré, quoi, ce que t'en as appris?
Ce qui est challenging en tant que design ops, je ne sais pas si c'est ce qui est dit le plus, mais en fait, on devient en tant que design ops, on enlève une épine du pied du management parce qu'on va faire un certain nombre de choses à leur place. On fait un certain nombre de choses aussi à la place des designers. Et du coup, la contrepartie, c'est que du coup, ils se reposent beaucoup sur nous. Et ce qui est très compliqué pour nous, c'est trouver l'engagement. Donc, essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas à chaque fois le moteur systématiquement, mais de trouver aussi vraiment la collaboration et de faire en sorte que les designers, les managers aient envie de continuer à contribuer et pas uniquement se reposer sur nos épaules. On a eu tendance probablement à ça au début, de produire un maximum. Il y avait beaucoup de monde qui arrivait, donc il y avait besoin notamment de gérer l'onboarding de toutes ces personnes-là, que ce soit carré, gérer le recrutement, gérer les premières méthodos et que ce soit bien carré. Mais après, on se rend compte que du design ops, on ne peut pas faire uniquement s'attendre à avoir l'adoption uniquement. Il y a besoin, on fait ce qu'on appelle du change management. Et du coup, c'est rabâcher, itérer, faire en sorte que ça soit adopté et se rendre compte en tout cas de ce qui ne fonctionne pas et l'améliorer au fur et à mesure. Mais pour ça, on a besoin de l'engagement aussi des designers. Et ça, cet engagement, c'est compliqué à avoir. Il faut leur expliquer qu'on ne peut pas être les seuls à produire, à trouver de quelle manière mieux fonctionner, etc. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui davantage, de trouver des solutions. On est en train de créer ce qu'on appelle des guildes, qui est assez classique dans d'autres, à d'autres endroits, mais c'est une manière d'impliquer davantage les designers, non pas de déléguer ou en tout cas de dire « on ne va plus le faire », mais on va trouver une solution pour mieux le faire avec vous. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la Community Guild. Cette Community Guild, justement, va travailler sur l'aspect plus culture et de faire en sorte que ce ne soit pas les design ops qui créent des rituels ou qui aillent chercher des speakers à faire venir chez PFIT ou qui créent le team building, etc. On va les accompagner, mais on a besoin que ce soit eux aussi, les designers, les managers, qui soient aussi, qui impulsent cette envie-là à leur niveau, avec le temps qu'ils peuvent avoir, mais vraiment être moteurs également, quoi.
Ouais, c'est réussir du coup à passer du mode au début où tu as besoin d'être très très dans l'opérationnel et montrer aux autres que tu leur apportes quelque chose à ok, je vous ai montré ce que je pouvais faire, mais maintenant il faut que j'arrive à vous mettre en place la structure qui permette que vous ne dépendiez plus que de moi pour faire les choses, mais que ça prenne aussi, ça insuffle et que vous soyez autonome pour prendre ces actions que je faisais au début en mode pompier, quoi.
C'est exactement ça.
Et effectivement, je vois le challenge, parce que quand tu t'es habitué du coup à avoir quelqu'un qui vient t'aider en mode pompier, après c'est un certain confort et du coup tu peux avoir plus de mal à te dire que c'est à toi aussi de réussir à prendre ces initiatives par la suite, quoi. Et t'as des tips, des choses que t'as vu un petit peu qui fonctionnent par rapport à ça. Enfin, tu parlais de répéter. Donc, moi, j'aime bien la règle des 3 R, répéter dans le produit.
Ouais, c'est ça. C'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on fait un nouveau process, etc., au début, c'est vrai qu'on faisait une grande messe. On a ce qu'on appelle le show and tell, qui est le moment où on va exposer au sein des équipes quelque chose qui vient être délivré. Un designer qui a fait une nouvelle expérience, c'est le moment où il va le faire. Et nous, côté design up, c'était le moment où aussi on allait exposer ce nouveau process est mis en place. Maintenant, let's go, il faut que vous opériez de cette manière-là. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut répéter, il faut faire des groupes, des petits groupes et montrer par l'exemple, les prendre par la main, faire du pairing, voire du mentoring, entre guillemets. Quelqu'un qui a déjà fait ce process, montrer pourquoi c'est pertinent que tu le fasses aussi dans ton process. On est en train aujourd'hui de travailler par exemple sur la data.
Est-ce que l'enjeu, pardon, je te coupe juste sur ça avant de basculer sur la data, mais pour bien voir l'enjeu là-dessus sur les process, c'est que, en fait, ce que vous faites, c'est que vous, en partie, hein, on t'a décrit bien les 4 pendants sur lesquels vous travaillez, mais sur la partie process, c'est que vous allez définir du coup en échange avec tous les designers des process qui sont les process idéaux à suivre. Mais clairement, il faut qu'ensuite les personnes s'approprient ces process et les utilisent. Et en réalité, ça, c'est hyper complexe parce que on te dit qu'il faut faire comme ça et toi, tu dis en fait, moi, j'ai toujours fait d'une autre manière. Pourquoi je vais aller suivre ton process? Oui, il est bien sur ton PowerPoint, mais ça ne veut rien dire dans mon quotidien, quoi. Donc,
c'est exactement ça.
Tu parlais de change management et de... Ouais, ça, c'est vraiment un gros, gros, gros sujet.
C'est pour ça que nous, on met en place, à chaque fois qu'on va sortir quelque chose, on met en place un système de feedback classique, de faire en sorte de continuer à prendre le retour des designers. Donc, en fait, un design ops, nos utilisateurs, c'est les designers. Donc, on opère de la même manière qu'en product management, on cherche à avoir du retour de nos utilisateurs direct. On a besoin de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ne pas être borné sur ce qu'on avait en tête de manière idéale sur le produit qu'on délivre, donc nous, notre process, et de faire en sorte d'itérer et de se rendre compte mieux du terrain. Donc, on a des systèmes un peu automatiques de retour. Quand on vient de sortir quelque chose, on a des surveys qui vont être envoyés sur Slack. Donc, on n'a pas un NPS, mais on a un peu le même système de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi, de quelle manière tu l'améliorerais. On fait aussi des mini-workshops derrière, de prendre de la température. Je te parlais tout à l'heure du design definition of done. C'est Amine qui l'a mis en place. Et là, récemment, 6 mois après la mise en place, on a refait un workshop pendant une heure de mais qu'est-ce qui a fonctionné, un REX, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qu'on abandonne. Et voilà, on l'améliore ou on l'abandonne si vraiment c'est pas pertinent et on se rend compte que ça ne correspondait pas du tout à la réalité du terrain. Et aujourd'hui chez PFIT, il y a un certain nombre de squads, il y a un certain nombre de tribes, des product managers, des ingénieurs qui ne fonctionnent pas tous de la même manière. Tout n'est pas standardisé au sein de Product & Tech. Et du coup, il faut aussi s'adapter à ça. C'est pas parce que tu vas donner un process qui est idéal que ça va fonctionner dans toutes les tribes. Donc on essaye après de s'adapter, d'être plus flexible, tout en étant quand même d'accompagner au changement pour chercher cette efficacité qu'on veut avoir.
Très, très clair. Du coup, avant que je te coupe, tu allais partir sur la data aussi, tu disais.
Data, aujourd'hui, c'est l'un de nos objectifs aussi principal côté design ops et côté design, d'être plus data-driven.
Montrer le retour sur investissement, du coup, aussi
Ou de prendre mieux nos décisions en se basant sur la data. Donc, aujourd'hui, c'est on fait le product discovery, les designers sont impliqués très fortement dans cette discovery, et nos designers sont très forts sur la user research, savent interroger, etc. La partie data demande encore à être mieux exploitée, donc mieux la comprendre, mieux comprendre les outils auxquels on a accès. Donc on utilise Amplitude, on utilise des dashboards sur Looker, on est en mesure de capter la data. Mais aujourd'hui, il faut savoir la comprendre, savoir l'exploiter, prendre les bonnes décisions en travaillant avec les product managers également. Mais c'est quelque chose qui était principalement dans les mains des product managers jusqu'à présent, ce qui est assez, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, ça marchait comme ça aujourd'hui chez PFIT. Et on aimerait que ça soit davantage aussi, non pas obligatoirement uniquement dans les mains des designers, mais mieux compris par les designers et mieux exploité, quoi. Donc le but aujourd'hui côté DesignOps, c'est de les aider sur la formation, donc former aux outils, mieux comprendre les outils, mieux les exploiter et mieux comprendre comment ça peut impacter mes décisions côté produit et côté design. Donc je te parlais tout à l'heure de pairing, justement, c'est on va trouver nos champions, nos data champions dans l'équipe et leur demander de faire des REX à tout le monde et ensuite de les mettre en binôme avec des personnes qui sont plus qui ont besoin de progresser sur ça et de leur montrer regarde moi comment je fais aujourd'hui sur mon périmètre et comment ça pourrait être pertinent pour le tien et de prendre par la main. Et on a plein de petits de micro-initiatives dans cette initiative globale de Data Driven.
Ouais, hyper intéressant de capitaliser du coup sur ceux qui vont déjà naturellement en fait être hyper proactifs sur ces nouvelles façons de faire et de les utiliser pour que ça insuffle après au travers de toute l'équipe. Cet aspect champion, moi je l'avais vécu un petit peu, c'était chez Airbus commercial quand ils ont fait la transition en fait de la suite Microsoft vers la suite G Suite, et en fait en interne, parce que c'était un gros changement pour eux, il y avait tout le monde qui avait l'habitude d'utiliser la suite Microsoft, et donc quand ils sont passés sur G Suite, rien que les mails, en fait les mails n'étaient pas affichés dans le même ordre, les gens qui avaient des macros dans tous les sens, enfin des règles dans tous les sens depuis des années, c'était vraiment un gros sujet d'adoption. Et du coup ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient des Google champions en fait sur différents départements, où c'est des gens en fait qui venaient essayer de pousser, insuffler, former les gens pour les accompagner sur cette transition d'outils, quoi. Et du coup, cette approche, effectivement, d'avoir un peu ces petits, pas mercenaires, mais ces personnes qui vont insuffler, je pense que c'est un bon tips. Sur ce que tu disais avant, sur les enjeux de change management, et est-ce que tu as pu, s'il y a des choses que tu ferais différemment ou que tu as vraiment appris là sur les choses les plus. Des tips pratiques pour des personnes qui ont ces enjeux-là, pas nécessairement purement dans du design ops, hein, mais qui ont des enjeux de change, tu vois, d'adoption, des trucs que tu as pu voir qui ont plutôt bien marché, ou des erreurs que tu referais pas, qu'est-ce que tu pourrais partager comme tips?
Je reviens sur ce que tu viens de dire juste avant. En fait, c'est l'un des principaux apprentissages qu'on a eu, c'est justement quand on fait nos grosses priorisations d'initiatives qu'on va avoir sur un semestre. Quand je suis arrivé chez PFIT, c'est vrai qu'on était un peu en vase clos côté design up, même si on allait solliciter régulièrement les managers et les designers, on collaborait quand même, mais on se rendait compte que c'était compliqué pour l'adoption. Donc je parlais de champion tout à l'heure, mais aujourd'hui on essaye aussi, sur nos grosses initiatives, d'identifier forcément un co-owner côté design leadership. Design leadership aujourd'hui, c'est les managers, les directeurs qui sont autant côté produit, côté brand, etc. Toutes nos grosses, nos main topics pour le semestre, on identifie systématiquement notre allié côté leadership, parce qu'on a besoin que ces personnes comprennent bien quels sont les enjeux de ce qu'on met en place et nous aident à l'adoption au sein de leurs équipes. Même si on échange régulièrement avec les designers, eux, ils échangent avec leur équipe directement, ils ont plus conscience des enjeux de leur tribe, des spécificités de leur tribe. On a des tribes qui fonctionnent pas du tout de la même manière, qui n'ont pas du tout les mêmes périmètres, et du coup, on a besoin de ce retour direct, que ce soit des managers ou des leads côté IC, côté individual contributor. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé à mieux adopter, à mieux à faire en sorte, en tout cas, que ça soit mieux compris et d'avoir moins de freins, quoi. Après, comme autre tips, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais en tout cas, c'est vraiment important.
Sur ce point-là, je trouve intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, là, ce que tu viens... Alors, si, tel que je le comprends, en tout cas, c'est cette double approche avec les champions. Du coup, c'est un peu ce qu'on a appelé du bottom-up, où par le bas, tu insuffles. Et là, tu viens de rajouter, du coup, l'importance aussi du top-down, c'est-à-dire d'avoir vraiment aussi, au niveau managérial, leadership, ceux qui, cette adoption aussi, pour que, en fait, les deux se rejoignent. Parce que parfois, quand on met en place justement du change management, quand on veut vraiment insuffler des nouvelles manières de faire, on peut souvent, parfois avoir trop tendance à penser que ça passe que par le bottom-up. Mais en réalité, si en haut, ça c'est pas aligné, ça va à un moment avoir un point de friction. Et donc, prendre les deux bouts, je trouve ça assez intéressant aussi.
On essaye aujourd'hui, manager. Alors moi, je suis inclus dans ce design leadership, donc j'échange toutes les semaines avec eux. Ça m'arrive effectivement de rabâcher un certain nombre de choses. Quand on va voir quelque chose où une initiative qu'on a mis en place où j'ai peu d'engagement, ils ont tous énormément de choses à traiter. Et du coup, c'est vrai que ces sujets qu'on peut adresser, nous, peuvent être mis un peu de côté. Donc, le fait d'avoir trouvé au moins un allié côté directeur, qu'il soit identifié, que, en l'occurrence, le VP Design l'ait identifié comme un objectif aussi pour les managers, d'être impliqués dans ces sujets très transverses, ça nous permet d'avoir aujourd'hui une meilleure adoption. Ça ne marche pas à chaque fois, mais probablement aussi parce qu'on a les mêmes problèmes d'engagement ou des sujets, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a amélioré grandement l'adoption aujourd'hui.
Et sur, du coup, sur les autres angles, sur des choses peut-être qui sont assez bien passées, où il n'y a pas eu besoin de trop insuffler de choses, est-ce que les bonnes surprises que tu as pu avoir, tu vois, sur, en reprenant un peu les quatre pendants que tu décrivais, du coup, la partie comment on développe la carrière du designer, la partie, donc là, on a beaucoup parlé de la partie process, fonctionnement interne, mais il y a aussi la partie, comme tu disais, culture de l'équipe design, et voilà, qu'ils aient le smile. Et enfin, la partie data pour pouvoir mesurer un peu tout ce qui est fait. Est-ce que parmi ces quatre pans, s'il y a des choses qui sont faites de manière plus ou moins naturelle, où il n'y a pas eu besoin de trop pousser, parce qu'au final...
Sur la partie, je parlais de Career Pass tout à l'heure, c'est quelque chose qui était très très attendu, qui existait déjà, qui avait été créé, qui existait déjà quand je suis arrivé, mais qui était un outil plus de consultation et... qui n'était pas un outil justement, qui était plus quelque chose que tu as du mal vraiment à opérationnaliser et de comprendre de quelle manière, dans mon quotidien, je vais pouvoir trouver des solutions. Ça, on l'a fait en collaboration, on a impliqué tout le monde en fait, réellement, au début, donc je parle de celui-là, pour les product designers, en se mettant en tête qu'il fallait absolument que ça soit un outil, donc quelque chose que je vais pouvoir utiliser entre managers et manager, mais aussi que moi, en tant que designer, je sois en mesure de comprendre facilement ce qu'on attend de moi. Et je dirais que c'est... Il n'y a pas eu besoin de pousser, il n'y a pas eu besoin d'engagement, etc. On peut toujours l'améliorer, mais on est arrivé aujourd'hui à un outil qui est bien compris, qui est efficace, On continue, comme je viens de le dire, de l'améliorer. Donc, on va continuer à trouver des meilleures solutions. Mais aujourd'hui, très concrètement, on a donc une grosse grille avec un certain nombre de compétences qui sont identifiées par grandes zones de compétences, par un certain nombre de niveaux. Si je suis un senior product designer, je vais pouvoir identifier de quelle manière je peux aller vers le poste de staff designer ou design manager. Et derrière, j'identifie des plans d'action. C'est-à-dire qu'on a identifié derrière quelles étaient les actions que je peux mettre en place pour progresser sur un certain nombre de compétences. Donc on a en fait, ça on le fait en collaboration avec les designers, avec les managers. Et ce qui a bien fonctionné, c'est justement d'avoir bien collaboré avec eux, de les avoir impliqués dès le début, de faire en sorte qu'ils donnent très concrètement, le contenu a été rédigé par les managers. Et on l'a challengé auprès des designers, on l'a amélioré au fur et à mesure, et aujourd'hui, il n'y a pas eu de frein quelconque sur ce qu'on a mis en place, et ça fonctionne plutôt très bien.
Top, très clair là-dessus. Sur la partie plus du coup culture de l'équipe design, qu'est-ce que tu aurais comme tips, comme trucs à partager que tu trouves qui fonctionnent bien, qui ont bien fonctionné? Moi, je trouvais intéressant quand tu disais avoir faire venir par exemple quelqu'un de chez Beta qui vient parler aux équipes. Ça, c'est un conseil en tout cas que j'avais déjà eu dans d'autres échanges sur le podcast où une personne me disait justement ce que je fais quand je veux par exemple partager un retour d'expérience d'une équipe qui avait mis en place une méthodo ou une façon de faire que j'ai trouvé assez cool, plutôt que de moi expliquer à la nouvelle équipe cette méthodo et pourquoi c'est génial, bah, je fais venir cette équipe d'une autre boîte expliquer à cette nouvelle boîte qu'est-ce qu'ils ont fait, et c'est la meilleure manière de faire pour pouvoir insuffler derrière le changement voulu.
Ça c'est exactement, on a exactement du même avis. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on est une équipe qui n'est pas qui est assez éclatée, on est en mode hybride. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de personnes qui sont à Paris, mais la plupart des autres personnes sont en France, à différents endroits, en Espagne, etc. Donc on a cette... C'est pas une difficulté, mais en tout cas c'est une contrainte. Il faut prendre en compte qu'on n'est pas tous au même endroit au même moment et qu'on a besoin de trouver des manières de se réunir, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Et du coup, on est obligé de prendre en compte cette contrainte-là. Sur la rencontre avec les autres équipes, c'est justement quelque chose qu'on a mis en place. On appelle ça, nous, Design Intersection. Mais c'est notre moyen, en tout cas, de solliciter des équipes d'autres horizons, d'autres sociétés, etc. C'est un temps, généralement, mais une heure et demie, où on les invite chez PFIT, en virtuel ou en présentiel. Et on fait un petit groupe côté design, on va échanger sur une thématique qui a été identifiée. Donc ça, c'est un moyen, effectivement, de se confronter à d'autres univers, à se confronter sur une manière d'adresser un problème de manière différente. On a commencé avec un studio de jeux vidéo qui s'appelle Asobo et qui est un des principaux studios de Microsoft qui édite notamment Flight Simulator et qui, du coup, sur du jeu vidéo, qui n'opère absolument pas de la même manière sur de l'opérationnel réellement, mais par contre on a adressé des sujets notamment d'onboarding, de quelle manière sur du jeu vidéo ils arrivaient à faire en sorte que des nouveaux utilisateurs comprennent facilement comment utiliser un jeu vidéo, en l'occurrence Flight Simulator, comment comprendre comment piloter un avion de manière très simple, et nous on a réussi à échanger avec eux sur ça, sur l'onboarding, sur PFIT, qui n'a rien à voir, mais on a trouvé quand même de la méthodo, de l'inspiration, et c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. On a fait avec une boîte espagnole qui s'appelle Travel Perk, qui est un moyen pour des employés de réserver des hôtels, et on a fait une spéciale user research. Et là aussi, pour confronter de quelle manière ils opéraient sur un modèle qui est assez proche d'une autre, très inspirant. Et derrière, ça nous a. Il y a des petits groupes qui sont faits entre Travel Perk et PFIT, qui se recontactent du coup et qui échangent plus régulièrement. Donc c'est ce qu'on veut créer en fait, cette émulsion. Quand on travaille en tant que designer, en tant que dans le produit de manière générale, on est vite sur notre périmètre restreint et. On peut peiner à être à voir ce qui se passe ailleurs, à être inspiré, à changer notre manière de penser. Et c'est ce qu'on veut avec Design Intersection, c'est ce qu'on veut aussi avoir quand on invite des designers externes. Et quand on dit designer, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui opère sur du produit. On ambitionne de faire venir, pourquoi pas un peintre, pourquoi pas quelqu'un qui fait de l'art, pourquoi pas du design industriel, du design de produit réellement au sens
physique.
Physique. On veut que nos designers se changent aussi leurs horizons et soient soit plus inspirés, plus efficaces. Et ça, ça se ressentira au sein du produit, ça se ressentira sur la manière de non pas d'être plus... On ne cherche pas l'originalité obligatoirement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue systématiquement, mais en tout cas de changer un petit peu ses horizons. Ouais.
Très, très clair, et je pense que ça donne pas mal d'idées, en tout cas j'espère, à nos auditeurs. Sur, t'as touché du doigt aussi, c'est vrai, un point dont je n'ai pas parlé, c'est votre culture de l'asynchrone. Vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, remote first, ou en tout cas il y a une forte culture autour de ça. Je suis curieux de connaître du coup maintenant, enfin ça fait quand même plusieurs années que t'es chez PFI, donc t'as vu ça fonctionner, les bonnes pratiques versus les choses qui marchent moins bien pour réussir à opérer en fait de cette manière.
Alors on a une politique pas remote first mais works from anywhere, c'est-à-dire que on a des locaux, on demande aux designers de venir une fois par mois dans les locaux, ne serait-ce que pour se voir en réel. Hier, on était une quinzaine de designers. On a réussi. On a consacré 2 heures du temps à une sorte de team building, partager un peu plus sur nous. Et c'était très agréable. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. La difficulté, pour répondre à ta question, la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est justement de se parler, de se confronter entre designers. Les designers, ils sont intégrés dans des squads, dans des tribes. Ils sont leur équipe réelle, ça va être leur squad, ça va être les ingénieurs, ça va être leur PM, mais du coup, tu restes sur ton périmètre et tu as du mal à te confronter sur ce que font les autres, ne serait-ce qu'avoir une idée des autres périmètres. Et voilà, donc ce qu'on a créé, ça reste quand même remote first, dans le sens où on a souvent des conference calls,
des visios.
Ça, on demande, on a des conférences qui sont obligatoires. Donc, je parlais du show and tell, c'est toutes les 2 semaines, c'est obligatoire d'y assister, ne serait-ce que pour savoir ce que font les autres, ce qui a été délivré et avoir cette idée-là. Le Key School dont je parlais tout à l'heure n'est pas obligatoire, mais on demande quand même d'essayer de venir parce que c'est un moyen aussi de détente, de construction d'équipe réellement et de faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement sur le côté très très professionnel, mais de partager du temps aussi entre designers, de savoir de quelle manière on le fait, de quelle manière on vit chez PFIT. Et ça, on l'a construit de manière à que ce soit qu'on puisse apprendre des choses, mais que ce soit quand même assez détente. Donc on a créé en l'occurrence un template sur FigJam où on commence tout le temps par une petite question pour détendre, pour savoir comment on s'est passé, je sais pas, pour avoir un avis sur une question. Et après, on part sur un sujet, mais on prend toujours un peu la température, essayer que ça soit détendu. Le lundi matin, on envoie une sorte de newsletter aussi pour le design, où on demande, on dit ce qui s'est passé, les informations importantes, mais on demande aussi aux designers de mettre une photo ou de raconter leur week-end. C'est anodin. Mais dans un contexte où on se voit peu ou autre, ça rajoute quand même un peu de vie, un peu de social en tout cas dans cet univers. Et on est quand même éclaté à différents endroits. Moi, je suis à Bordeaux. On est 4 designers à Bordeaux et on essaye de se voir régulièrement. On fait du coworking ensemble, de partager du temps quand même et de s'organiser comme ça quand même. Donc, à créer ce lien. C'est ce qui peut être compliqué et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui davantage de faire, notamment avec la Community Guild que j'évoquais tout à l'heure. Le but, c'est de trouver des moments, typiquement quand les gens vont venir dans les locaux de PFIT, que ce soit à Paris ou à Barcelone ou à Londres, de prévenir les autres, de savoir qui est là, de prévoir un déjeuner ensemble, etc., et de créer du lien. Et ça, c'est important parce que pour tous ceux qui sont en télétravail, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et on peut avoir y a besoin voilà, de créer ce lien-là. Et de...
Ouais, donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Le fait déjà, donc tous les mois, vous vous retrouvez minimum ça, pour garder aussi cet aspect humain. L'aspect aussi, je pense, hyper important, qui est l'aspect aussi culture, vraiment de l'entreprise que tu veux réussir à garder et à développer. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué de le développer à part sur une boîte qui est full remote et pure. Mais quand tu es un peu en mode hybride où tu veux garder quand même cette présence, le fait de se voir de manière régulière en physique, ça remplace pas quand même. C'est pas remplaçable par un échange en visio. Sur tout ce que tu as pu mettre en place et que vous continuez à mettre en place sur l'aspect design ops, je suis curieux de savoir s'il y a des ressources en particulier ou des boîtes qui t'ont inspiré là-dessus, ou si c'était des échanges avec tes pairs et puis ensuite du bon sens et du test and learn. Ce que je trouve en tout cas intéressant par rapport à tout ce que tu as partagé jusqu'à présent, c'est quand même l'approche très product. Tu l'as dit toi-même, tes utilisateurs, en fait, c'est les salariés de la boîte, quoi. Mais c'est quand même une approche très très itérative, très 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 produit au final, que de construire ce pôle et tout ce qui va autour du design ops. Mais donc je suis curieux de savoir toi tes équivalents de Marty Kagan ou autres que tu aurais pu avoir lors de cette mise en place.
Aujourd'hui, il y a une grosse communauté. Donc, DesignOps, c'est un métier qui est jeune, surtout en France. Donc, c'est inspiré de ce qui existe sur le ProductOps ou DevOps. Mais il y a une grosse communauté américaine qui s'appelle DesignOps Assembly, qui est même internationale aujourd'hui, où il y a les principaux DesignOps des grosses sociétés, du Twitter, X, du Adobe. Figma, la DesignOps de Figma, aujourd'hui c'est elle qui a créé cette communauté. Il y a plus de 2000 ou 3000 DesignOps dessus, et c'est une manière très simple de poser des questions et d'avoir un retour sur des problématiques qu'on peut rencontrer. C'est une communauté donc, qui est principalement en anglais. Il y a ils ont des antennes, notamment une en France, qui organise de temps en temps des rencontres, et ça permet quand même d'avoir ce retour assez de personnes en tout cas qui sont DesignOps depuis un certain nombre d'années, et de confronter avec une vision mais qui est très américaine, en tout cas Silicon Valley centrée. Ce qu'on a créé récemment avec une autre DesignOps, c'est justement une vision plus française, je dirais, ou en tout cas francophone. On a créé un DesignOps Club justement pour se confronter et pour échanger avec nos pairs au sein de... De manière très régulière, une fois tous les mois, identifier quelles sont les problématiques qu'on voudrait adresser et d'échanger entre nous. Donc ça, on l'a créé il y a quelques mois, ça marche très très bien, on a énormément de demandes. On essaye de limiter pour justement que ce soit un échange qui soit très, très bénéfique pour tout le monde et que ce ne soit pas uniquement surfacique. Le but, c'est pas que ce soit de la formation, donc le but, c'est pas de faire en sorte que des designers ou des personnes intéressées par le DesignOps deviennent DesignOps, mais pour que des DesignOps pratiquants aujourd'hui puissent échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui, quoi. Et typiquement, on le faisait depuis un certain temps avec Zaliata, qui travaillait chez Pefit avant, et que tu as reçu. On le faisait de manière un peu informelle, avec DesignOps de Doctolib, de Deezer, de Datadog. On se rencontrait assez régulièrement, on avait perdu un peu le rythme, mais là on s'est dit c'est nécessaire aujourd'hui. On a des problématiques aujourd'hui au sein de nos entreprises qu'on... un peu ce que je disais tout à l'heure sur les designers, on a besoin aussi de se confronter à d'autres personnes. Et typiquement, nous là on travaille justement sur l'adoption, sur ces sujets-là. On a trouvé des solutions et c'est aussi intéressant de les exposer et de les montrer aux autres et d'exposer nos problématiques actuelles, quoi.
Très, très clair. Et du coup, pour les DesignOps qui ne connaîtraient pas encore le club francophone, pour le rejoindre, il te contacte sur LinkedIn, il y a un Slack.
Il n'y a pas de Slack. On a voulu éviter justement le Slack. Okay. Sur LinkedIn, on tape DesignOps Club. Okay. Pour l'instant, il y a juste à demander à le rejoindre. On fait une session tous les mois, limitée à 20 personnes. Donc, il suffit de s'inscrire quand on le met. Et voilà, c'est ouvert. Ce qu'on veut, c'est que ce soit des DesignOps qui viennent et qui est déjà pratiqué, pour que ça soit vraiment un partage, que ce soit pas uniquement deux trois personnes qui apportent de la matière, parce qu'il y a déjà en fait des meet-ups, il y a déjà des conférences où on peut comprendre ce que c'est le design ops. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses aussi. Mais là, ce n'est pas le but de ce club-là.
Très, très clair. Du coup, avant d'aller vers mes questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier qu'on n'a pas abordé, un sujet que tu aimerais accentuer par rapport à tout ce qu'on vient de se dire autour du design up du coup, chez Payfit?
Non, je pense qu'on a tout. Les sujets que je n'ai pas adressés, c'est très spécifique à Payfit. On n'a pas parlé de design system, alors que généralement, les design ops, c'est quelque chose, notamment en France, un design ops, on l'associe beaucoup au design system. Aujourd'hui, nous, chez Payfit, on accompagne l'équipe design system, mais on n'est pas garant du design system. Donc, mais je sais qu'il y a beaucoup de sociétés, que ce soit chez Doctolib ou autre, où le design ops fait partie. Est vraiment le garant de c'est même leur mission principale. Nous aujourd'hui on ne le fait pas, il y a une équipe qui est dédiée, qui est très très forte, et qui du coup on les a aidés notamment sur du monitoring dont je parlais tout à l'heure, de quelle manière mesurer l'adoption du design system. On continue de les accompagner, mais c'est pas notre objectif principal. Et après, j'ai pas d'autres sujets du coup.
Ok. Très, très clair. Du coup, pour aller vers mes deux questions de fin d'échange, donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle tu es en général en désaccord avec tes pairs?
Je pense que je l'ai déjà évoqué. Je ne sais pas si je suis en désaccord, mais en tout cas, je suis convaincu qu'on ne peut pas, dans nos métiers, rester justement en vase clos et trouver des solutions seules. Je suis énormément pour le partage. Et c'est pour ça que je viens de parler du Design Ops Club, mais c'est vraiment cet objectif-là. On a besoin de se confronter. On a toujours un peu des peurs de confidentialité, de ne pas vouloir trop donner d'éléments, même de concurrence sur ces sujets-là. Et je suis convaincu, en tout cas, qu'on a besoin, pour progresser ensemble, de se confronter, de voir... De partager ce qui fonctionne chez nous. Moi, je suis prêt à montrer, j'ai parlé du career path tout à l'heure, je suis prêt à montrer de quelle manière on l'a mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, mais dans le but aussi que derrière, j'ai du retour d'autres sociétés ou d'autres design ops qui me montrent comment je pourrais améliorer ce que j'ai fait. Et ça, je suis convaincu que c'est nécessaire, quoi, qu'on a besoin de partager entre nous et personnellement, j'adore ça.
Top, complètement aligné en tout cas sur la notion de partage. Enfin, moi, dans le podcast, je dis ensemble on va vite, seul on va vite, pardon, ensemble on va loin. Carrément aligné là-dessus. Du coup, pour aller vers ma dernière question, donc, c'est quelles sont les choses qui te nourrissent, comment tu progresses?
Là aussi, je pense que je lis beaucoup, je lis un peu moins de livres vraiment très... comment dire, très professionnel aujourd'hui. Je l'ai fait beaucoup, mais je fais un peu moins. Aujourd'hui, je sollicite beaucoup des one-one avec d'autres personnes, en fait. Je fais du mentoring moi-même, donc je suis assez sollicité. Je me suis inscrit sur des sites de mentoring où je fais Hexagon UX pour mentorer des femmes dans la tech. J'adore faire ça et ça m'alimente aussi. Le mentoring, c'est pas uniquement... donner, c'est aussi recevoir énormément de ces personnes, que ce soit des débutants ou des personnes qui sont en reconversion. C'est pour ça aussi que j'ai fait de l'enseignement. Et aujourd'hui, oui, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de me confronter à ce qui existe. Donc, je fais beaucoup de one-one avec pas que des design ops d'ailleurs, des designers. Je réponds évidemment aux sollicitations. Donc, si quelqu'un me sollicite sur LinkedIn, j'envoie rapidement un Calendly pour parler, ne serait-ce que cet échange me nourrit énormément avec des designers, avec des product managers, avec des personnes qui sont sur d'autres métiers. J'ai besoin de le faire régulièrement.
Top. J'espère du coup que ça donnera envie à d'autres personnes qui nous écoutent de te contacter. En tout cas, je te remercie pour tout ton partage, Damien.
Merci Thierry.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.